sur RFI si vous nous rejoignez. Il est 20h à Paris, 19h temps universel.
Paul Lancin-Spinelli.
Délibération savamment mise en scène par le Hamas. Une deuxième salve d'échange de prisonniers s'est tenue aujourd'hui conformément à l'accord de trêve entre le groupe islamiste et Israël à Gaza. Quatre soldats israéliennes captives depuis les attaques du 7 octobre 2023 ont été relâchés en échange de 200 prisonniers palestiniens. Certains d'entre eux ne vont toutefois pas pouvoir retourner en Palestine. Ils vont devoir s'exiler. Explication à suivre d'un spécialiste. En Biélorussie, une élection présidentielle pour la forme. Demain, Alexandre Loukachenko va être réélu dans un scrutin qualifié de simulacre par les pays occidentaux. Le dirigeant va entamer son 7e mandat à la tête d'un pays qu'il dirige et opprime depuis 30 ans. Depuis l'étranger, l'opposition tente quand même de s'organiser. Et puis à 29 ans, c'est le sommet de sa carrière. L'américaine Madison Keys a remporté l'Open d'Australie en tennis ce matin contre Aryna Sabalenka. C'est son premier titre dans un tournoi du Grand Chelem. Un deuxième ouf de soulagement pour Israéliens et Palestiniens. Comme le week-end dernier, au commencement de la trêve à Gaza, un nouvel échange de prisonniers a eu lieu ce samedi. L'administration pénitentiaire israélienne a confirmé avoir libéré 200 détenus palestiniens. Une foule de milliers de personnes a accueilli l'un des convois à Ramallah en Cisjordanie occupée. Et dans l'autre sens, le Hamas a relâché 4 soldats capturés le 7 octobre 2023. Sami Boukhelifa.
La libération des soldats israéliennes a eu lieu à Gazaville, place de la Palestine. Le Hamas joue toujours sur les symboles pour envoyer des messages. C'est sa méthode et celui-ci est assez explicite. Une cérémonie et une mise en scène digne d'un film. Les soldats israéliennes ont été relâchés en uniforme militaire flambant neuf, contrairement aux précédentes otages libérées en habit civil. Sous la contrainte, elles sont apparues tout sourire et ont salué la foule. Le Hamas refuse de qualifier ses soldats d'otages et parle de prisonniers de guerre. En échange de leur libération, Israël relâche ce samedi 200 détenus palestiniens. Au 7e jour de ce cessez-le-feu, les forces d'occupation israéliennes doivent se retirer du centre de la bande de Gaza. En théorie, à partir de demain dimanche, les Gazaouis pourront se déplacer librement dans l'enclave entre le sud et le nord. Mais le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou annonce qu'il conditionne finalement ce retour des Gazaouis dans le nord à la libération d'Arbel Yehoud, une otage civile israélienne. Elle sera libérée samedi 1er février, lui répond le Hamas. Sami Bourfi, Jérusalem. RFI.
Vous entendiez notre correspondant Sami Boukhelifa évoquer cette libération de 200 prisonniers palestiniens aujourd'hui, mais pour eux cela ne signifie pas forcément un retour en Palestine. En fonction des condamnations dont ils avaient écopé, certains doivent s'exiler à présent, comme l'explique Taher Shrité, c'est le porte-parole de la commission des affaires des détenus palestiniens.
Parmi ces détenus, 121 avaient été condamnés à la perpétuité et 79 avaient écopé de longues peines de prison. Certains seront relâchés à Ramallah, d'autres à Gaza, et d'autres encore vont être bannis du territoire et envoyés en Égypte. Ceux dont les peines allaient de 20 à 35 ans de réclusion seront exilés durant 3 ans au bout desquels ils pourront revenir, mais ceux qui avaient été condamnés à la perpétuité sont bannis à vie. Parmi ces détenus figure le doyen des prisonniers palestiniens, Mohamed Altous Abouchadi. Il a passé 40 ans en prison.
Taher Shrité qui mentionnait le cas de détenus palestiniens relâchés par Israël et directement expulsés. Aujourd'hui, 70 d'entre eux ont été conduits en bus en Égypte. Pour le président ukrainien, il est impossible d'exclure l'Ukraine de toute plateforme de négociation en vue de la fin de la guerre contre la Russie. C'est ce qu'a affirmé Volodymyr Zelensky aujourd'hui. Cette sortie fait suite à la déclaration de Vladimir Poutine hier, se disant prêt à travailler avec Donald Trump, le président américain, sur la question ukrainienne, saluant le caractère pragmatique et intelligent de son homologue américain. Moscou, qui assistera demain à la consolidation d'un de ses alliés inamovibles. Alexandre Loukachenko sera réélu ce dimanche à la tête de la Biélorussie. Pour plusieurs pays occidentaux, l'élection est jouée d'avance. L'autocrate entamera donc son 7e mandat après 30 ans déjà passés à la tête d'un pays dirigé d'une main de fer. Il avait notamment réprimé violemment le soulèvement populaire né lors du précédent scrutin en 2020, l'opposition muselée sur la scène interne qui a donc dû se réorganiser en exil. Pavel Latouchka est diplomate, ancien ambassadeur et ministre biélorusse, aujourd'hui membre du conseil de coordination de l'opposition qui est exilé à Varsovie en Pologne. Il explique la stratégie adoptée.
Pour nous, ce qui est important, c'est la politisation de la société. C'est pourquoi nous estimons que le boycott n'est pas une bonne chose. Tikhanovskaya, le cabinet de transition et le conseil de coordination de l'opposition soutiennent la stratégie suivante. On appelle les gens à se rendre dans les bureaux de vote, non pas pour voter, mais pour cocher la case « contre tous ». La loi prévoit qu'il y ait une telle case sur le bulletin de vote. On est contre l'obscurantisme, on est contre ce régime, contre Loukachenko. Il faut lui montrer que rien n'a changé depuis 2020. Loukachenko va truquer les élections. Je dirais même qu'il va s'octroyer 88% de voix, soit un point de plus que Poutine. Il veut montrer qu'il a plus de soutien que son maître. Mais le régime va faire le décompte des bulletins de vote. C'est mieux que des sondages, ce sont des faits réels. Et ils verront que la majorité des Biélorusses est contre ce régime.
Pavel Latouchka interrogé par Anastasia Bekio. Et ce soir, la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaya Kallas, affirme qu'Alexandre Loukachenko n'a aucune légitimité, parlant de l'élection présidentielle comme d'un affront à la démocratie. Plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les rues allemandes pour dénoncer la poussée de l'extrême droite. À Berlin, 35 000 personnes se sont réunies, selon les forces de l'ordre. 100 000 selon les organisateurs. Des manifestations étaient prévu dans une soixantaine de villes allemandes à moins d'un mois des élections législatives. Le parti AfD qui a en revanche reçu le soutien d'Elon Musk cet après-midi. Le patron de Tesla et du réseau social X participait à distance à un meeting du parti anti-immigration. Des sacs de courses vides, pas de file d'attente aux caisses. En Croatie, un appel au boycott des magasins a été lancé hier. L'objectif, dénoncer la vie chère, et l'opération qui avait été lancée par des associations de consommateurs a été un succès. Elle a été suivie par de nombreux clients, Nicolas Feldman.
N'achetez rien et préparez cette journée comme si les magasins étaient fermés. Les appels au boycott de ces derniers jours sur les réseaux sociaux croates ont, semble-t-il, été entendus. D'après l'administration fiscale, le chiffre d'affaires des commerçants a chuté ce vendredi de près de 50%. Le mouvement avait été lancé par des associations de consommateurs pour protester contre la vie chère. En Croatie, l'inflation a atteint en décembre 4,5%, soit près de deux fois plus que dans le reste de la zone euro. Message entendu du côté du gouvernement et du ministre de l'économie, Ante Chouchniar.
Je peux qu'exprimer ma satisfaction devant le succès de cette campagne, comme le montrent les photos des magasins vides. Quand j'en ai parlé pour la première fois il y a quelques semaines, on s'est moqué de moi, mais on va pouvoir s'occuper de cela parce que ça porte ses fruits.
Le Premier ministre Andrei Plenković voit, lui, dans ce boycott un message important des citoyens. Il assure que le mouvement sera pris en compte lors de la prochaine révision du prix des produits de première nécessité. Mais les économistes alertent, attention à ne pas se tromper de cible, car les causes de l'inflation sont bien plus profondes. Ils pointent notamment l'abondance des services publics ou encore le taux de TVA en Croatie, l'un des plus élevés de la zone euro.
Explication signée Nicolas Feldman. Et puis des larmes de bonheur pour Madison Keys, l'américaine, a remporté ce samedi l'Open d'Australie en venant à bout de la double tenante du titre et numéro 1 mondial Arina Sabalenka. Le score 6-3, 2-6, 7-5. La joueuse de 29 ans décroche ainsi son tout premier titre en Grand Chelem, Arthur Franc.
Madison, entrée dans la danse, l'américaine attendait ce moment depuis très longtemps. Après un dernier coup droit gagnant, elle a enlacé son clan et s'est assise pour savourer son exploit. Battue en finale de l'US Open 2017, Maddy n'a pas manqué son deuxième grand rendez-vous.
Je voulais cela depuis tellement de temps. Je n'étais pas sûre de pouvoir revivre un jour une finale de Grand Chelem. Je ne me pensais pas capable de me retrouver à nouveau en position de gagner un tel titre. Et mon équipe a cru en moi, alors merci beaucoup.
Relâchée et puissante, Keys n'a pas tremblé lorsque Sabalenka a égalisé à une manche partout. L'américaine a ponctué une quinzaine de rêves à Melbourne, épinglant 5 têtes de série, dont les deux meilleures joueuses du monde. La native de Rock Island a prouvé qu'elle était l'une des meilleures frappeuses du circuit, après avoir longtemps slalomé entre les blessures et les désillusions. Coachée par son mari, Bjorn Fratangelo, Keys a trouvé la combinaison parfaite et retrouvera lundi son meilleur classement, 7e. Arthur Franc, Melbourne, RFI.
Et demain, la finale messieurs du tournoi de l'Open d'Australie opposera l'Italien Yannick Sinner, numéro 1 mondial, à son dauphin, l'Allemand Alexander Zverev. C'est presque la fin de ce journal sur Radio France Internationale. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez le réécouter ainsi que toutes les autres éditions sur l'application Pure Radio RFI. 20h10 à Paris, 19h10 temps universel.